Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, ta radio.
Bonsoir. Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 9 mars 2020. Vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et donc, on commence tout de suite avec
le titre de l'international. Et donc, à l'international, on va vous parler du Mexique et d'une occupation féministe. Pour parler ensuite de l'accord, de l'ancien apparemment accord qu'il y a eu entre l'Union européenne et la Turquie et de ces hordes de Syriens aux portes de l'Europe. Pour ensuite reparler de Bolsonaro, on en parle assez souvent finalement. Et pour finir à l'international, ce sera les mutineries dans des prisons italiennes.
Ensuite, on passera au national et on parlera un peu de la panique actuelle médiatique, surtout autour du coronavirus. Ensuite, on enchaînera sur la répression de la manif féministe à Paris qui s'est tenue la veille du 8 mars. Ensuite, on enchaînera sur la nouvelle loi que prépare le gouvernement pour la recherche et l'enseignement supérieur. Et enfin, on aura un petit sujet, oui, petit piège sur le conduc. On aura un sujet donc sur des proviseurs qui font n'importe quoi au sujet des E3C et la manière d'imposer les épreuves. Et enfin, on terminera sur une petite brève autour de l'affaire Polanski.
Au local, donc, on terminera cette émission avec un point sur les magouilles électorales pour les élections du Grand Lyon et un petit point sur la très féroce répression qu'il y a eu samedi à la aux différentes manifestations des Gilets jaunes. Et on commence tout de suite à l'international, donc avec un point sur l'occupation féministe à l'UNAM au Mexique.
Et oui, pour rappeler que la lutte féministe, c'est tous les jours et partout dans le monde, je voulais un peu revenir sur l'occupation de la plus grande université d'Amérique latine, l'UNAM à Mexico. Alors, revenons un peu sur le contexte mexicain. On sait qu'il s'agit d'un des pays avec le plus haut taux de féminicide au monde. Ils ont triplé depuis 2005, notamment sous l'effet de la guerre de Calderón contre le narcotrafic qui a vu absolument exploser les réseaux de trafic d'êtres humains. Aujourd'hui, on dénombre plus de 10 féminicides par jour au Mexique et l'université n'échappe pas à ce fléau. Ainsi, le 3 mai 2017, le corps d'une étudiante de 22 ans est découvert ligoté à une cabine téléphonique à l'intérieur du campus. En avril 2018, une autre étudiante disparaît. À ce jour, elle n'a toujours pas été retrouvée. En août de la même année, c'est une professeure de l'UNAM ainsi que sa fille étudiante qui sont assassinées chez elle. Et le 20 août, une autre étudiante est retrouvée assassinée après avoir été séquestrée. Face à l'ampleur et à la violence de ces attaques, l'année 2019 a vu émerger de nombreux nouveaux groupes de femmes et d'autodéfense. Ces mouvements féministes sont plus déterminés que jamais, comme l'a prouvé la manifestation du 16 août 2019 qui a réuni des milliers de Mexicaines dans les rues de la capitale. Le cortège particulièrement déterminé s'est lancé au cri de « Ce n'est pas la police qui me protège, ce sont mes amis ». Autodéfense féministe contre la violence machiste. Un commissariat a été incendié, des vitrines cassées, un métro vandalisé, pour rappeler notre rage à ceux qui pensent détenir le monopole de la violence pour nous terroriser. C'est donc dans ce contexte qu'en octobre 2019, des étudiantes de l'UNAM ont appelé à une assemblée non mixte au sein de laquelle au moins 11 facultés étaient représentées. Alors pour ces meufs, il s'agit à la fois de dénoncer les violences sexistes et sexuelles à l'université comme partout dans la société, mais aussi le harcèlement au sein de l'université et la protection dont bénéficient les professeurs et étudiants agresseurs au sein de l'institution universitaire. Elles ont demandé également la prise en compte des questions de genre dans les cours et la création d'espaces non mixtes au sein de l'université. Donc à la suite de cette assemblée, les étudiantes ont appelé à une grève le 4 novembre qui s'est poursuivie par l'occupation de la fac de lettres pour répondre au refus de la direction d'entendre leurs revendications. Depuis, elles occupent en permanence la fac de lettres. Des réunions ont lieu chaque jour pour organiser le quotidien de l'occupation, mais aussi la stratégie politique vers la victoire. Elles partagent, se forment, imaginent un nouveau monde entre meufs. Aujourd'hui encore, pardon, désolé, on a un petit problème de son. Merci, cool. Donc aujourd'hui encore, la fac de psycho est occupée. Hier, il y avait deux manifs qui étaient organisées pour le 8 mars. Bien déterminées, elles ont réuni des milliers de meufs dans les rues du DFE. Un appel à la grève nationale a été lancé pour aujourd'hui par un collectif féministe avec le slogan « El nueve ninguna se mueve », donc le 9, aucune d'entre nous ne bouge. Alors on espère que la grève aura été suivie et que les mauvais jours finiront bel et bien. On vous laisse avec quelques slogans de la manif d'hier à Mexico et on partage notre rage avec les copines del otro lado del charco.
Vous venez donc bien d'écouter des slogans d'une manif à Mexico de ce week-end. Et on enchaîne tout de suite avec donc le retour sur l'accord Union Européenne-Turquie et les Syriens aux portes de l'Europe.
Voilà, puisqu'on n'arrête pas d'entendre dire que la Turquie a mis fin à un accord qu'elle avait avec l'Europe. Et donc de quoi parle-t-on ? Je pense que c'est un accord dont vous avez parlé déjà plusieurs fois dans le Canu Info. Mais rappelons ce que c'était. Et donc c'était en 2016, la Turquie avait accepté de ne plus laisser les migrants passer sa frontière avec l'Europe en échange de grosso modo 6 milliards d'euros et quelques autres avantages pour ses ressortissants. D'ailleurs, pour être honnête, ces avantages ne les a pas forcément été appliqués. Il s'agissait de faciliter l'obtention de visas et quelques avantages commerciaux. À savoir aussi que sur les 6 milliards d'euros qui représentent la somme totale débloquée par l'Union européenne, une grande partie était versée par le biais d'ONG et d'associations et n'était donc pas touchée telle quelle par la Turquie. Cet argent devait servir à accueillir dignement les Syriens durant les Syriens et autres personnes qui fuyaient leur pays et qui passaient par la Turquie, donc à les accueillir dignement durant leur séjour en Turquie. Et éventuellement à les aider au retour pour que ils rentrent chez eux, puisque c'était le principe de cet accord. Alors, avant de parler de ce qu'il en est aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce rappel, puisque pendant 4 ans, donc, l'Union européenne a payé la Turquie pour empêcher des migrants, pas uniquement des Syriens, d'arriver en Europe. Et cet accord a été à la fois contraire au droit d'asile et à la fois tout à fait ridicule. D'abord contraire au droit d'asile, puisque toutes ces personnes avaient le droit de venir demander l'asile en Europe, et cet accord les en empêchait. Ensuite, il était ridicule sur plusieurs points, notamment sur le fait que l'Union européenne assurait, exigeait de la Turquie que les droits des migrants étaient respectés sur son territoire. Et elle le faisait dans les paroles, mais aucune démarche de contrôle n'a été mise en place. Et ensuite, si l'Union européenne était vraiment inquiète pour les migrants, elle ne les empêcherait pas d'entrer en Europe, là où elle peut facilement, en théorie, s'assurer de que leurs droits soient respectés. Dans les faits, on sait que ce n'est pas trop le cas. L'accord prévoyait aussi que l'Union européenne accepterait de temps en temps des Syriens, à chaque fois qu'elle réussirait à en expulser vers la Turquie. En gros, on arrive à en renvoyer 10 vers la Turquie, dans ce cas, on veut bien en prendre 10. Bon, on ne sait pas pourquoi on ne peut pas garder tout de suite les 10 premiers, mais c'est la logique de l'Union européenne. Et depuis, c'est l'île de Lesbos, proche de la Turquie, vous en aviez forcément entendu parler, qui servait de dernier rempart avant l'Union européenne, puisque les migrants qui y sont parvenus s'y retrouvent parqués dans des conditions insalubres. Pour info, il y a plus de 20 000 personnes dans un seul camp dans l'île, dans l'un des plus grands, le plus grand je pense même, camp de l'île, et donc en tout il y aura beaucoup plus de monde. Et enfin, l'accord avait quand même aussi une clause qui disait que l'Union européenne et la Turquie doivent coopérer pour améliorer les conditions humanitaires à l'intérieur de la Syrie, en particulier dans certaines zones proches de la frontière turque, ce qui permettrait à la population locale et aux réfugiés de vivre dans des zones plus sûres. Là, je cite entièrement cette phrase. Et donc, s'il y a bien quelque chose qu'on peut dire sur la Turquie et l'Union européenne, c'est qu'elles n'ont pas du tout fait ce qui était possible pour faire en sorte d'améliorer les conditions humanitaires en Syrie. Donc bref, tout ça pour dire que cet accord que la Turquie est accusée d'avoir rompu, c'était de toute façon un accord assez fumeux et qui n'a jamais été dans l'intérêt de ceux qui fuient leur pays. La semaine dernière, Erdogan, le président turc, annonçait qu'il n'empêcherait plus le passage des Syriens en Europe. On entend partout qu'il s'agit d'un chantage pour que l'Union européenne soutienne la Turquie dans son conflit actuel en Syrie contre la Russie, en gros. Mais alors, loin de nous l'idée de défendre la Turquie sur son intervention en Syrie, et on ne pardonnera d'ailleurs pas à Erdogan ce qu'il a fait au Rojava, mais le vrai problème n'est pas que la Turquie ne veuille plus accueillir les Syriens. Le vrai problème, c'est que personne ne le fait. Et qu'il y a la guerre en Syrie aussi. Et l'Union européenne ne peut pas reprocher à la Turquie de ne pas faire quelque chose qu'elle ne fait pas elle-même. La Grèce a d'ailleurs répondu tout de suite à l'annonce d'Erdogan en suspendant l'examen des demandes d'asile. Ce qui est carrément puéril, avouons-le, étant donné que les demandes d'asile des dizaines de milliers de personnes qui sont à Lesbos depuis des mois, voire des années, il faut bien les étudier. Et ce n'est pas les quelques centaines de personnes supplémentaires qui sont arrivées depuis l'annonce d'Erdogan qui va changer quoi que ce soit. Assez rapidement, l'Union européenne a aussi voté une aide financière de 700 millions d'euros pour déployer du renfort de l'agence Frontex en Grèce. Elle a donc choisi sa solution. Aujourd'hui, il y a à Lesbos une montée flagrante du racisme et de l'extrême droite. Les étrangers se font insulter, les employés des ONG sur place sont menacés. Et d'ailleurs, 3 personnes ont été condamnées à 3 mois avec sourcils, à 3 mois de prison avec sourcils pour ces faits-là. Un journaliste s'est fait tabasser et ce samedi, un centre d'accueil pour réfugiés a été incendié. Pas de victimes, heureusement, mais c'est donc de cette façon que sont accueillis, entre guillemets, en Europe, des milliers de migrants. Le parti Obdoré, ouvertement néo-nazi, s'organise sur l'île et terrorise autant les étrangers que ceux qui veulent les aider. Dans le nord, ils organisent des barrages filtrants pour empêcher toute personne de venir en aide aux réfugiés. Il faut donc le dire, les vrais perdants, ce sont ceux qui sont toujours perdants, c'est ceux qui voudraient rejoindre l'Europe. D'abord parce qu'ils se sont fait chasser de chez eux, puis parce qu'ils ont d'abord été bloqués en Turquie, où pour la plupart ils se font exploiter et où ils doivent rester dans la clandestinité. Et pour ceux qui ont tenté d'aller en Europe, ils sont maintenant coincés entre la Turquie qui les pousse à partir, on a des récits de groupes de personnes accompagnées par la police turque jusqu'à la frontière, et la Grèce qui les repousse violemment, que ce soit sa police ou certains de ses habitants. Ce sont eux les perdants parce que ce sont eux qui se font instrumentaliser, mais qui au final sont traités comme des indésirables partout. Donc un peu de décence serait la bienvenue de la part de la Turquie peut-être, mais surtout de la part de l'Union européenne, qui pourrait commencer à traiter ceux qui cherchent l'asile comme des êtres humains et non pas comme un enjeu de négociation.
On continue toujours à l'international avec le meurtre de Marielle Franco au Brésil.
Alors, le 14 mars 2018, la militante féministe noire et lesbienne Marielle Franco était assassinée à Rio de Janeiro. Conseillère municipale au sein du parti Socialisme et Liberté à Rio, elle défendait avec vigueur la cause LGBT, les afro-latinos et les habitants des favelas. De plus, Franco s'en prenait aussi régulièrement à la police de la ville, dont la violence a peu d'équivalent dans le monde. D'ailleurs, le logo du BOPE, donc les flics d'élite de Rio de Janeiro, est un symbole repris par de nombreux fascistes à travers le monde, notamment en France, hein, on a pu le voir à plusieurs reprises. Ces combats donc, lui ont valu de se faire beaucoup d'ennemis au cours de sa vie militante, et au fur et à mesure, elle était devenue une des cibles évidentes pour les groupes paramilitaires et fascistes brésiliens. Un an après son meurtre, Bolsonaro, candidat d'extrême droite ouvertement raciste, sexiste et homophobe, était élu à la présidence. L'élection de ce personnage, grand admirateur de l'ancienne dictature militaire, rentre encore en résonance avec ce meurtre. Muriel Franco représentait tout ce que Bolsonaro et ses alliés haïssent. Les pauvres, les femmes noires, les femmes en général, les gays et lesbiennes, etc., etc. Ainsi, les conditions troubles du meurtre font que beaucoup de ses proches l'ont rapidement associé à Bolsonaro et à sa clique de paramilitaires fascistes. Mais récemment, c'est la justice brésilienne elle-même qui semble étonnamment remonter cette piste. Justement, l'enquête, qui est toujours en cours, pointe enfin la responsabilité des milices dans le meurtre de Muriel Franco. La famille Bolsonaro, qui entretient des liens très particuliers avec certaines d'entre elles, à tel point qu'elle est surnommée par certains Brésiliens la famille Che, en contraction de milice et de famille, se retrouve tachée par l'affaire. Depuis 2 ans d'enquête, donc, c'est de nombreuses pistes qui en fait remontent jusqu'à l'entourage de Bolsonaro. Déjà, on peut citer le fait que la résidence personnelle du président est localisée dans un petit quartier résidentiel fermé, qu'on appelle les condominios, d'où est partie la voiture donc impliquée dans les meurtres. Voilà, c'est déjà quand même gros. Ensuite, les deux suspects qui se trouvent actuellement derrière les barreaux étaient dans ce véhicule, donc ce sont deux ex-policiers militaires, Rony Lessa, le tueur présumé, et Elcio de Queiroz, le chauffeur, qui sont tous deux en fait des membres d'une entité de la milice de Rio de Janeiro qui est cyniquement baptisée le Bureau du Crime. Et ben, le premier, donc, qui est auteur des 13 coups de feu lors du double meurtre, était le voisin du président dans ce quartier, donc habitant au numéro 65, et Bolsonaro, lui, habitait au 58. Voilà. D'ailleurs, détail d'ordre privé, sa fille a été la petite amie de Renan, le dernier des fils Bolsonaro. Voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, le second suspect, donc le chauffeur, qui apparaît notamment sur des selfies aux côtés du président, eh ben, s'est rendu dans l'ensemble d'habitations pour rejoindre le premier suspect le jour même de l'assassinat. Donc, ils sont ensuite partis ensemble pour exécuter leur crime. Et selon le registre du quartier, Elcio de Queiroz, donc le chauffeur, voulait même initialement se rendre chez Jair Bolsonaro, qui était absent ce jour-là. Donc désormais, les Brésiliens et les proches de Muriel Franco attendent toujours de savoir qui sont les commanditaires, maintenant qu'on a les deux coupables. Et autant dire que les soupçons donc penchent fortement vers la famille Bolsonaro. Alors pour rappel, les conditions de l'élection de Bolsonaro, elles aussi avaient été troubles. Hein. En particulier, la manière dont le candidat du parti travailliste, Lula, qui était archi-favori à l'élection, avait été évincé de l'élection par le juge Moro, donc le juge anticorruption Moro, qui est ensuite devenu lui-même ministre du gouvernement de Bolsonaro. Et ben, cet assassinat vient s'ajouter aux nombreuses manœuvres dans l'ombre qui ont permis à Bolsonaro et à un pouvoir fascisant et militaire d'accéder au pouvoir.
Toujours à l'international, donc, les mutineries dans les prisons italiennes.
Voilà, ça c'est une petite info qui a le mérite d'être partagée. Le fait que depuis hier, se sont enchaînées des mutineries dans les prisons italiennes. Pour le moment, ce sont 27 établissements qui ont été concernés. Il y a eu 6 morts dans la prison de Modène, une des premières touchées par cette vague de mutineries. Ces mutineries ont été déclenchées par l'annonce d'une suspension des visites sous le prétexte de l'épidémie de coronavirus. Cette annonce a été celle de trop pour des prisonniers qui sont coupés du monde, qui n'avaient pas d'informations sur ce qui se passe dans le pays et n'avaient accès qu'à des rumeurs. Et évidemment, apprendre que les visites étaient terminées a dû les faire psychoter un petit peu. Autre argument avancé par les prisonniers de, par exemple, la prison de San Vittore à Milan, c'est leur insécurité face au coronavirus en étant enfermés et donc confinés avec des centaines, voire des milliers de co-détenus, ce qui n'est pas complètement illogique. Une dizaine d'entre eux est montée sur le toit de la prison pour réclamer leur liberté. L'association italienne de défense des droits des prisonniers, Antigone, souligne en effet que les prisons italiennes sont en surpopulation. Environ 61 000 détenus pour 51 000 places. Et quant au sud de l'Italie, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont réussi à s'enfuir. Et on leur souhaite que cela se passe mieux pour eux qu'en prison. Et en parlant de coronavirus, on peut peut-être enchaîner avec la France.
Oui, alors en France... Le coronavirus, qu'on n'est pas du tout au même état que l'Italie au niveau de sa diffusion, on se pose la question, est-ce qu'il ne servirait pas un peu, voire beaucoup, au gouvernement pour imposer de nouvelles mesures liberticides et faire oublier, grâce notamment à la déferlante médiatique, la réforme des retraites, le 49-3, les gilets jaunes qui reprennent pourtant du poil de la bête, ou encore la fronde dans les hôpitaux, j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. L'Élysée a carrément pris la tête du grand combat contre cette nouvelle peste, en convoquant carrément une troisième fois un conseil de défense. C'est la première fois en France qu'un conseil de défense, donc l'armée, les hauts militaires, les hauts gradés de l'armée, est convoqué par l'Élysée dans une situation comme celle-là, donc contre un virus, certes pas inoffensif, on est tous d'accord là-dessus, mais un virus quand même, tout ça à grand coup de com'. Alors on s'attend presque à un nouvel état d'urgence, finalement, à l'armée dans nos rues, des perquisitions en veux-tu en voilà. Bon, c'est vrai, on n'en est pas encore là.
Mais on a quand même... L'armée n'a jamais vraiment quitté nos rues depuis.
C'est vrai qu'elle n'a pas vraiment quitté nos rues depuis. Mais on a, il a quand même été décidé dans ces conseils.
Du coup, il chercherait quoi dans les perquises exactement?
Et ben, il chercherait les gens sales.
Des paquets de mouchoirs.
Les gens sales, les pauvres probablement, comme il faisait à chaque perquisition. Donc ils ont quand même décidé dans ce conseil de défense d'interdire les rassemblements de plus d'un millier de personnes, sauf dans les transports et autres rassemblements, je cite, utiles à la vie de la nation. Alors pour le moment, les manifestations ne sont pas encore interdites, ni les concours, et c'est tant mieux. Enfin, presque à Beauvais, dans l'Oise, donc un département un peu plus touché que les autres par le coronavirus, un rassemblement syndical organisé par les agents des collectivités territoriales pour dénoncer leurs conditions de travail a été interdit par la préfecture. Ce premier cas d'interdiction marque le début d'un phénomène qui pourrait bien se généraliser en cette période de contestation sociale. C'est-à-dire l'utilisation de mesures restrictives et liberticides afin d'étouffer toute possibilité de s'organiser, de manifester, bref, de lutter. Le message est de plus en plus clair, que ce soit par les moyens d'action de la démocratie bourgeoise, le 49-3, la répression policière et judiciaire ou par des moyens détournés comme le prétexte d'une épidémie, tout semble bon petit à petit pour faire taire la grogne sociale. A-t-on vraiment besoin d'un conseil de défense militaire, instance solennelle et secrète, par ailleurs, pour apprendre à se laver les mains, par exemple? Alors même que le principal risque de propagation du coronavirus vient plutôt de l'incapacité du secteur de la santé à pouvoir répondre efficacement au virus, secteur qui a vu sa masse salariale et ses moyens fondre d'année en année, qui s'organise et qui lutte depuis plusieurs années pour sonner l'alarme et imposer aux gouvernements successifs, et encore plus à celui-là, des mesures budgétaires indispensables, poussant même plus de 1000 chefs de services hospitaliers qui sont pourtant pas à première vue des camarades à démissionner de leurs fonctions en janvier dernier. Est-ce qu'il n'est pas plutôt là le véritable problème? Heureusement, la fronde sociale ne baisse pas complètement les bras. Entre les manifestations féministes de ce week-end, on va en parler, et des gilets jaunes, on va aussi en parler ces derniers jours, les exemples se multiplient. À Paris demain, par exemple, la coordination RATP-SNCF avec les secteurs de l'énergie, des raffineries, des profs, organise un grand meeting pour préparer une rencontre nationale des secteurs en lutte et le second round contre Macron, ses retraites de merde et son monde.
Et oui, et malgré le coronavirus, hier, les manifs féministes ont réuni des dizaines de milliers de personnes dans les rues partout en France. Elles étaient plus de 60 000 à Paris, 6 000 à Rennes, 10 000 à Lyon, pareil à Toulouse, 2 000 à Bordeaux. Et les manifs se sont, dans l'ensemble, plutôt bien déroulées. D'ailleurs, j'en profite pour faire une grosse dédicace aux copines parisiennes qui ont bien dégagé du cortège le collectif Némésis, un collectif néo-fasciste qui prône un féminisme un peu à la Bigard. C'est pas des conneries, vous pouvez vérifier. Je disais donc, ça s'est plutôt bien passé.
Ce grand féministe Bigard.
Elles font des selfies avec lui et tout. Sympa les meufs. Donc je disais, ça s'est plutôt bien passé, à l'exception de la manif qui avait lieu samedi soir à Paris. Plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies pour une marche de nuit non mixte pour un féminisme populaire et antiraciste. Et en arrivant aux abords de la place de la République, vers 22h30, la police a décidé tout simplement d'attaquer le cortège. Alors au programme, charges, matraquages, lacrymo, pas moins de 9 interpellations. On peut voir, donc il y a pas mal de vidéos hein, qui tournent sur les réseaux sociaux, on peut voir des militantes se faire gazer alors qu'elles dansent et chantent sur les rails du tram. On voit des centaines de meufs se faire nasser à répu puis tabasser dans le métro, d'autres se faire traîner par les cheveux. Enfin, tout un tas de scènes sympas pour rappeler que les violences faites aux femmes, c'est pas prêt de s'arrêter, que le patriarcat est bien protégé par les hommes en uniforme, voire qu'ils l'incarnent. On décernera le César, sans mauvais jeu de mots, au keuf qui s'est permis un. Alors, mademoiselle, la rue, elle est à qui ? Oui, merci Jean-Michel, hein, ou Romane, ou Gabriel, ou Christophe, je ne sais plus. On avait bien remarqué hein, que la rue, elle n'était pas trop à nous. Visiblement, le sang du crâne que tu viens d'exploser t'effraie moins que celui de mes règles, mais gare à la revanche. Alors, bien sûr, il y a quand même eu une avalanche de réactions outrées, hein, notamment de Marlène Schiappa, toujours dans les bons coups, qui a donc expliqué que toutes les femmes doivent pouvoir manifester pacifiquement pour faire respecter leurs droits. Elle a demandé expressément une enquête à son copain Christophe, hein, du ministère de l'Intérieur et par ailleurs chevalier de la Légion d'honneur du féminisme et de la non-violence, surtout policière. Du coup, comme il est gentil, il s'est bien expliqué. Hein, en fait, la manif est arrivée trop tard sur la place. Oui, c'est vrai que nous, les gonzesses, hein, on marche pas très très vite en général.
Faites que discuter.
Exactement, c'est parce qu'on devait trop papoter. Bref, Marlène Schiappa s'est donc de nouveau exprimée le soir même sur BFM TV pour un beau rétro-pédalage et nous expliquer qu'en fait, non, finalement, hein, elle n'avait pas volé toutes ces féministes radicales qui sortent dans la rue la nuit. Allez Marlène, hein, c'est sans rancune, ton féminisme, de toute façon, on n'en veut pas. Le tien comme celui de toutes les autres bourgeoises avec qui tu gouvernes.
Et on enchaîne donc avec un sujet sur la prochaine réforme de l'enseignement supérieur.
En effet, alors, il faut une loi ambitieuse, inégalitaire, oui inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale. C'est en ces termes que Antoine Petit, PDG, hein, PDG, attention, du CNRS, qui décrit la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dit loi LPPR. Donc la LPPR, voilà le nom de la nouvelle réforme gouvernementale visant à pousser encore plus loin la logique de privatisation et de marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un nouveau pas en avant dans la reproduction du système de recherche anglo-saxon en France. Sous couvert de hausse des financements, le gouvernement va mettre en... Enfin, ce qui va être mis en place par le gouvernement, ce sont toujours plus d'évaluations, toujours plus de financements sur projet, toujours plus de hiérarchisation et de différenciation entre établissements, mais aussi entre collègues. Et pour cela, là, la possibilité aussi d'imposer plus de 192 heures annuelles aux enseignants-chercheurs et la fin du paiement des heures supplémentaires. Alors, concrètement, pour aller un peu plus dans le détail, tout premier gros point, c'est la généralisation donc, du financement par projet de la recherche, ce qui a pour effet, et là je vais citer un enseignant-chercheur, de précariser la recherche puisqu'elle serait indexée sur la réalisation de certains projets dans une logique de compétition. Cela limite la liberté du chercheur puisqu'il doit nécessairement se couler, se glisser dans des propriétés de recherche qu'il n'a pas lui-même définies. Il n'y a plus de liberté à mener des recherches qui ne se situent pas dans les lignes de financement des organismes nationaux, publics ou privés, ce qui, dans les faits, donc, va uniformiser et appauvrir fortement la recherche, et surtout toucher en particulier la recherche fondamentale, hein, qui va être la première impactée. Donc on voit comment aussi les priorités et un mode de fonctionnement calqué sur le privé va impacter aussi globalement la capacité de l'enseignement supérieur de faire de la recherche fondamentale qui, elle, a un impact plus sur le long terme, mais un impact qui peut être aussi bénéfique d'un point de vue pécunier et au final c'est complètement contre-productif. Bon, ensuite, l'autre gros point de la réforme, c'est qu'elle va précariser encore plus les personnels, avec notamment ce qu'ils appellent la chaire junior, hein, qui vise clairement à augmenter la compétition entre jeunes chercheurs, chacun devant être performant, c'est-à-dire publier suffisamment, avoir des recherches attractives, etc. Hein, un moyen donc de renforcer le climat délétère qui peut déjà régner aujourd'hui et qui règne déjà aujourd'hui dans de nombreux labos. Alors, ces CDD, donc, la chaire junior, en fait, ce sont des CDD courts de 5 ou 6 ans qui, dans les faits, sont mieux rémunérés, mais ça reste des CDD, et qui sont en fait une pâle copie du système américain qu'on appelle les tenure tracks, dont la rupture des contrats, donc, ou la rupture et motivés par le seul achèvement du projet en question. Et donc, ça va être des contrats qui vont être proposés à des post-doctorants en quête d'un emploi de titulaire. Et c'est un moyen de les précariser. En fait, c'est un moyen efficace d'augmenter en fait, et de décaler la période de précarité. Et donc, pour les établissements, de faire encore plus d'économies au final. Donc, la logique darwinienne et managériale, elle se traduit également dans la répartition des financements. Hein, l'objectif affiché ici est complètement assumé par les macronistes et de concentrer encore plus les financements au sein de quelques établissements d'excellence qui, comme l'a dit ce cher PDG du CNRS, aurait pour objectif donc d'incarner, d'être les plus performants, comme il dit, voilà, à l'échelle internationale. De quoi donc renforcer encore plus le fossé entre des établissements d'élite et des établissements de masse marqués par de faibles financements et une grande précarité des personnels et des étudiants.
Et maintenant on continue avec l'éducation nationale ?
Toujours, ouais, donc avec l'éducation nationale et avec les E3C. Alors on est dans la continuité hein, du renforcement de la sélection sociale. Alors vous savez, les E3C, ce sont ces épreuves du bac anticipées en contrôle continu qui commencent dès la première, donc qui sont mises en place depuis cette rentrée de septembre par la réforme du baccalauréat imposée par le ministère de l'Éducation nationale l'année dernière, alors qu'il y avait un mouvement social des enseignants. Ce contrôle continu donc représente 40% du baccalauréat, donc c'est la fin du bac national en tant que diplôme à valeur nationale, et son objectif est bien de renforcer les inégalités entre établissements et de renforcer la sélection à l'entrée de l'université ou sur le marché du travail. Donc, dans certains établissements, dans un certain nombre d'établissements conséquents, depuis un mois et demi, des personnels se sont mis en grève pour empêcher la tenue des épreuves, donc, mais ils ont été remplacés, donc pour briser la grève, comme l'éducation nationale sait bien le faire, par des personnels administratifs, des profs en retraite ou des assistants d'éducation, entre autres. Il a donc fallu bloquer physiquement les épreuves. Bien souvent, ce sont des lycéens eux-mêmes, hein, bien conscients de la violence sociale engendrée par ces épreuves et par cette réforme, qui s'en sont chargés. Beaucoup ont subi la répression policière, parfois très violente, et des conseils de discipline, avec parfois des renvois, hein, ou d'une semaine, voire définitif, un peu partout en France. Des épreuves E3C se sont déroulées sous surveillance policière, mais dans certains établissements, ça représente à peu près 1000 élèves sur 60 000 qui passaient ces épreuves, le mouvement lycéen et des personnels a permis de les faire annuler. Il y a donc des épreuves de rattrapage. La semaine dernière, au moins 3 établissements parisiens, via leur direction et leur proviseur, ont envoyé par courrier aux parents et aux enfants scolarisés un document dans lequel on leur demande de s'engager par écrit à ne pas perturber la session de rattrapage des E3C. Et en cas de refus de signer le document, eh bien, tout simplement un zéro à l'examen. Un examen qui participe au baccalauréat, un zéro à l'examen. Alors la légalité de cette procédure est mise en cause par la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, et un certain nombre d'organisations syndicales. Alors on verra jusqu'où ça peut aller, hein, cette contestation de la légalité. Mais de toute façon, le ministère de l'Éducation nationale et Jean-Michel Blanquer, donc le ministre, ont d'ores et déjà appuyé donc ces documents et ces nouvelles attaques des proviseurs. Mais au-delà de cette légalité, nous, ce qui nous importe, c'est surtout que cette mesure, elle est profondément scandaleuse, qu'on nage en plein délire et qu'on ose espérer que dans ces établissements, mais aussi dans les autres, la lutte va pouvoir continuer et même s'amplifier contre cette nouvelle forme de répression, c'est-à-dire mettre zéro à des élèves parce qu'ils se sont mobilisés.
Tout à fait. Et juste avant de faire une petite pause musicale, on va vous parler d'un sujet qui n'a pas pu vous échapper. Il s'agit de la 45e cérémonie des Césars qui avait lieu le 28 février dernier. Et depuis, vous en entendez parler partout, en long, en large et en travers. Et donc, vous le savez, Roman Polanski, coupable de relations sexuelles avec une mineure et accusé de viol par beaucoup d'autres femmes, a reçu le prix de la meilleure réalisation. De nombreuses personnes, célèbres ou non, se sont indignées de ce choix. Et en réaction, on a entendu, surtout à la télé, un discours puant et unanime, à majorité masculine, parfois très violent envers celles qui dénoncent ce choix, leur faisant bien comprendre qu'on ne critique pas un réalisateur ou qu'on ne critique pas tout simplement un homme puissant. Il a même été reproché à Florence Foresti de l'avoir ridiculisé en insinuant qu'il était petit, comme s'il n'était pas justement payé à faire ça, à ridiculiser l'industrie du spectacle. Alors face à ce discours qui présente les réalisateurs et plus largement les artistes masculins comme des demi-dieux qu'on ne saurait critiquer, on va au moins réécouter ce que disait Blanche Gardin au Molière de l'humour il y a 2 ans sur Roman Polanski.
Donc, dans la catégorie...
Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre. Et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre. Et j'adorais ça. J'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher.
Bien.
Mais il faut, c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein.
Ouais.
C'était...
D'accord.
Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste.
Donc on est là pour remettre...
Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on ne verra pas. Hein. Oui.
Voilà, c'est plus simple de passer ça que de démonter point par point tous les discours qui sont sortis depuis dans les médias. Et on fait donc une petite pause musicale avec une musique que vous allez reconnaître tout de suite.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée. Ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout.
Vous êtes bien sur Radio Canu, vous écoutez le Canu Info du lundi et vous venez évidemment d'entendre l'hymne des femmes. On continue l'émission et on enchaîne avec le local pour parler du Grand Lyon.
Oui, je vais vous parler désormais des petites magouilles électorales qui ont lieu en ce moment pour les élections du Grand Lyon. Alors que le candidat écologiste Grégory Doucet est largement en tête des intentions de vote pour l'élection à la mairie de Lyon, notre ami Gégé Collomb semble prêt à toutes les petites manœuvres et bassesses.
Comment
pour garder son statut de baron lyonnais. S'il ne s'est pas présenté lui-même à la mairie, mais a mis à la place un fidèle sans trop de charisme, sous le nom, qui s'appelle Yann Kutchera, hein, qui en plus affublé de l'étiquette LREM, autant dire qu'il a presque aucune chance d'être élu, notre Gégé Collomb, lui, se présente quand même à la métropole. Alors, oui, d'ailleurs, pourquoi je dis sans trop de charisme pour Yann Kutcher ? Bah, en fait, il ne s'agirait quand même pas pour, pour Monsieur Collomb de mettre quelqu'un susceptible de le trahir à nouveau, hein, comme ça a été le cas avec Kepenekian, qui se présente lui-même à la municipalité, et Kim Fell, qui lui se présente à la métropole en tant que concurrent à Gérard Collomb. Bon, bref. Donc, notre cher Gérard Collomb prépare une alliance toute particulière, hein, pour ces élections, visiblement. En tout cas, de nombreuses rumeurs courent à ce sujet, d'une alliance avec la liste Les Républicains, portée par Étienne Blanc. En fait, le deal, alors même s'il est démenti pour le moment par Étienne Blanc, ça serait, avec une alliance avec LERM, de laisser Étienne Blanc gagner la municipalité de Lyon, en échange d'un vote des élus, des conseillers métropolitains, Les Républicains.
T'as qu'à écouter un truc pendant que...
Bon, je reprends donc. En échange donc d'une élection de Gérard Collomb à la métropole. Alors pour vous expliquer un peu, le scrutin à la métropole, c'est un peu un système différent, bien moins démocratique puisqu'il n'est pas direct et beaucoup plus opaque, hein, mais ça c'est typique de genre d'institutions comme les métropoles. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les habitants de toutes les communes de la métropole vont désigner, élire des conseillers métropolitains qui eux-mêmes éliront après un ou une présidente de la métropole lyonnaise. Et à ce petit jeu, donc, ce qui prime, c'est les alliances électorales, hein, à qui sera le plus facilement élu. Hein, et dans ce cas-là, du coup, notre cher Gégé Collomb a une stratégie toute tracée, permettre à Étienne Blanc de gagner la mairie de Lyon, en échange de quoi les conseillers LR rééliraient Gérard Collomb à la tête de la métropole. Et donc on aurait un homme politique local qui tient les rênes du pouvoir local depuis près de 20 ans, continuer encore à nous pourrir la vie et à tenir quand même l'institution la plus puissante localement, la métropole, hein, qui quand même regroupe 59 communes et dispose d'un budget de plusieurs milliards d'euros. Donc on aurait Collomb qui pourrait conserver son statut de baron local et son petit pouvoir. Ce qui nous amène à suivre sur la répression de la manif des Gilets jaunes ce samedi et la manière dont la police a échoué à protéger les commerçants lyonnais.
Oui, alors, puisque ce samedi, il y avait un appel national, Gilets jaunes à Lyon, comme c'est déjà arrivé, et il y avait même deux appels à deux rendez-vous différents, un d'abord à 14h, place Bellecour, et un autre à 17h30, à Gros Caillou, pour une marche au flambeau. Alors, pour chaque manifestation, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont répondu présentes au cours de ces deux manifestations déterminées, qui ont d'ailleurs duré plusieurs heures chacune. Alors encore une fois, la préfecture a lâché ses chiens, surtout ne pas laisser ses gilets jaunes manifester. Ils s'en sont donc donnés à cœur joie. Alors d'abord en assant la place Bellecour pendant un bon bout de temps et en attaquant à plusieurs reprises la manifestation et les manifestants à l'intérieur de la NAS, puis ensuite dans les pentes une fois que la marche au flambeau a commencé à partir et donc à manifester. Il y a eu 7 interpellations selon la préfecture. 20 manifestants ont été blessés selon les street medics et on leur fait confiance, dont 5 blessés graves au LBD40, toujours lui, mais oui, il est toujours là, le LBD40, bah oui, il faut bien finir les stocks. Alors, évidemment, le LBD40 et ses blessés graves, c'est grâce ou surtout à cause de tirs tendus. Un jeune de 16 ans, une fois n'est pas coutume, a subi un tir tendu en plein visage avec une double fracture de la mâchoire. Aujourd'hui, il y a eu au moins une comparution immédiate, donc après plus de 48 heures de garde à vue, puisque c'était à partir de 14 heures. Ce qu'on répond à la police et à cette répression, c'est qu'on ne lâche rien. Et la preuve en est les différents rendez-vous de cette semaine. Et donc,
on passe à l'agenda, j'imagine.
On va passer à l'agenda. Alors, aujourd'hui, il y a... à partir de 19h, donc c'est un peu passé le collectif Les Pentes contre Bouygues, c'était à partir de 19h mais c'est jusqu'à 21h30, donc vous pouvez toujours y aller, qui vous invite à venir mettre en commun vos expériences et des idées pour réfléchir aux façons de peser l'évolution du quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Mardi 10 mars, donc demain, il y a l'AG des personnels des étudiants de Lyon 2 à 10h. sur le campus de Bron. Il y a également une manifestation à partir de 14h de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tu avais quelque chose d'autre à dire là-dessus ?
Donc, il y a un conseil d'administration de l'Université de Lyon mardi à 10h au rectorat et un appel à rassemblement.
Ok, donc on continue toujours sur les personnels et l'Université Lyon 2. Il y a une soirée de soutien à la caisse de grève des personnels de Lyon 2 à 19h mardi au bar Le Philanthrope. Il y a une projection débat à 19h30, toujours demain, Hôtel Écho, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes à la MJC de Villeurbanne. Il y a une conférence gesticulée de Vincent Viala pour la 4e édition du Festival de conférences gesticulées de Lyon, Agitons nos idées, qui revient donc à la MJC Confluence. Jeudi 12 mars, il y a une journée de mobilisation interpro à Lyon 2, avec des assemblées générales, des manifs, des projections, des ateliers, des débats, des bouffes à prix libre. Vous pouvez retrouver ce programme sur donc Rébellion. Il y aura un rassemblement en solidarité à celles et ceux qui luttent contre les prisons au tribunal de Gap. Donc c'est un peu plus loin, effectivement. Il y a un peu de route. Donc par rapport à la répression que subissent effectivement les personnes qui soutiennent les prisonniers. Il y a l'atelier du groupe Soin, toujours le même jour, à l'Amicale du Futur à partir de 18h30. Il y aura une permanence droit, emploi, travail et révolte dédiée donc au droit du travail, emploi et formation pro, la permanence d'Ether tous les mois au Rita Plage. Un concert de soutien à Artzazat Hardcore Festival avec la Manita, Black Wind et les Single Ladies à 20h. Et vendredi, donc, pour finir, il y aura une rencontre interpro autour de la réforme de l'assurance chômage à partir de 10h avec des AG, des manites, des projections et consorts à ce moment-là au campus de Bron. Donc, une table ronde sur les vestiges coloniaux ferait-il donc partie de notre mémoire, donc une mise en cause de cette affirmation à 19h30 à la Maison des Passages. Une conférence gesticulée de Sophie Assante à 20h à la MJC Vaux-en-Velin une conférence gesticulée, encore une, de Mélodie Dabadi à partir de 20h30 à la MJC Oulin.
Et mercredi, il y a le procès en appel de Cédric Héroux et c'est rendez-vous à midi devant la cour d'appel de les 24 colonnes.
D'ailleurs, je crois bien, puisque il y a encore une information, donc le samedi 14 mars, il y aurait une manif de nuit féministe contre le patriarcat à partir de 19h. Et donc, ce sera le départ à Place Guichard. Donc, 14 mars, 19h, manif de nuit féministe contre le patriarcat.
En non-mixité.
En non-mixité.
Ben voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. C'était le Canu Info du lundi. Et puis, on va vous retrouver la semaine prochaine. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Blasphème FM.
kind of thoughts I got. Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive. Opposition comes rising up sometimes.